Le sujet peut paraître surprenant dans la mesure où c'est quelque chose d'assez confidentiel. Ça touche pas des millions de personnes. Mais quand même, ça vient questionner notre rapport à l'être humain, notre compréhension et notre conception de l'être humain, et par là même, notre rapport à Dieu. Bon, il y a eu, on peut dire, un phénomène un peu déclencheur qui a été la loi qui a instauré le mariage pour tous. C'est sûr que ça a été un grand pas dans la généralisation, on va dire, de ces pratiques qui étaient très très marginales. C'est vrai que cette loi qui a été votée au nom d'un principe d'égalité qui en soi est inattaquable, principe d'égalité qui fait partie de la devise de notre République. Donc on ne va pas revenir sur le bien fondé de cette loi, ni sur la confusion qu'elle introduit dans notre code civil. Elle introduit simplement le fait qu'il s'agit d'une égalité en droit. Et l'égalité en droit d'avoir un enfant, est-ce que l'enfant relève d'un droit ? Est-ce qu'on a un droit à l'enfant ? Ça, c'est une autre question. Enfin, on ne va pas l'aborder là, hein. Ça ferait appel à des notions juridiques, etc., que je ne suis pas compétent pour traiter. Ce qui motive notre intérêt pour cette question, c'est qu'au nom de cette égalité devant la loi, les couples homosexuels qui sont, donc, comme tout un chacun, qui ont droit à la reconnaissance de la République, on veut dire, demandent un accès aux techniques de procréation médicalement assistée, comme les couples hétérosexuels. Et on comprend pourquoi, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour faire un enfant, il faut toujours un homme et une femme. Et donc l'accès à la gestation, l'accès à la procréation médicalement assistée est un problème général. La gestation pour autrui, c'en est un cas particulier. Mais on voit que ce problème est mis forcément, toujours au nom du principe d'égalité, sur le devant. Alors, je fais un petit rappel très très rapide, hein, parce que c'est des questions complexes et longues. On va dire que le problème se pose différemment, effectivement, pour les couples lesbiens et pour les couples gays. On n'a pas recours aux mêmes techniques, hein. C'est vrai que pour les femmes, pour des deux femmes, la maternité ne pose pas de problème particulier en dehors du recours à un sperme extérieur, à un sperme de donneur. C'est une technique qui est simple, sans danger, sans douleur, on va dire, utilisée largement en procréation médicalement assistée, pour des couples dont la stérilité relève de l'homme. Donc on a déjà très couramment recours à ces paillettes de sperme conservées dans des banques de sperme et avec des critères juridiques très particuliers d'organisation, etc. Cependant, cette technique, elle est jusqu'à présent illicite pour les couples de femmes ou pour les femmes seules qui, elles aussi, réclament, après tout, je n'ai besoin de personne, je n'ai pas envie d'un compagnon, je n'ai pas envie d'une compagne, par contre j'ai envie d'un enfant. On a aussi cette demande de la part de femmes seules, qui vivent seules et qui souhaitent une maternité. Donc c'est interdit chez nous pour l'instant. C'est autorisé dans un certain nombre de pays voisins, hein, de nos pays voisins, en Belgique, en Espagne. Donc ça fait l'objet de ce qu'on appelle un tourisme procréatif parce que, vu que c'est illicite chez nous, eh bien, il suffit de prendre le train ou l'avion ou la voiture tout simplement et d'aller chez le voisin pour se faire inséminer et revenir avec un enfant. Par contre, ce problème justement de tourisme procréatif, on l'invoque comme un motif d'inégalité, parce que ça va sélectionner ceux qui ont de l'argent, qui ont les moyens de se payer le voyage, de payer ces techniques qui ne sont pas données. Donc là encore, on va dire, oui, vous voyez comme c'est inégal, puisque c'est le principe d'égalité est quelque chose vraiment de... Je veux dire, quand on nous assène ça, on a tout dit et on n'a plus rien, on n'a plus de mots à dire. Hein. Donc, au nom de l'égalité, c'est non recevable. On va dire, non, il faut que toutes les femmes qui ont... souhaitent faire accéder à ce moyen-là, puissent le faire sans qu'il y ait comment dire, de discrimination entre les niveaux sociaux. Alors, de cette façon, on va faire appel à la médecine pour venir permettre la naissance d'un enfant sans père. C'est cette extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires, qui était, je vous le rappelle, une promesse électorale d'Emmanuel Macron, hein, qui a fait l'objet d'un avis favorable du Comité consultatif national d'éthique, rendu cet été. Normalement, l'examen de la loi devait se faire maintenant, or, il a été, on peut dire, un peu botté en touche, et il est reporté à juin 2019. Pour des raisons, paraît-il, de calendrier. On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que l'avis du Comité consultatif national d'éthique a été donné après une grande consultation nationale qui était appelée les États généraux de la bioéthique et où le Comité d'éthique a recueilli les avis de toutes les associations, de toutes les institutions, de toutes les... communauté religieuse sur la question. Apparemment, le résultat est qu'ils n'en ont pas tenu compte, visiblement, parce que il semblait y avoir une majorité opposée. Et le comité s'est déclaré pour, favorable. Donc ça, c'est pour introduire la question au niveau de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules ou lesbiennes. Il n'en est pas de même pour les couples gays, hein, pour les couples d'hommes, pour qui la grossesse requiert nécessairement une femme qui puisse porter l'enfant durant la gestation, le mettre au monde et ensuite l'abandonner au profit du couple demandeur. Donc on a là une séquence d'actes qui n'est pas sans poser des questions. Alors on arrive pleinement dans le sujet de la gestation pour autrui. Gestation pour autrui, ou GPA, hein, c'est le sigle, que le Comité protestant pour la dignité humaine préfère appeler gestation par autrui. Parce que c'est effectivement, gestation pour autrui, ça met en évidence, en avant, le caractère altruiste. Donc c'est plutôt rassurant, c'est plutôt valorisant. La gestation par autrui, au contraire, met l'accent sur l'instrumentalisation d'une femme réduite à un utérus, à une matrice, simplement pour un autre couple, que ce soit des hommes ou un couple, on le verra, ça peut être aussi pour un couple hétérosexuel, stérile, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Hein. On a pu parfois utiliser le terme de simple parenthèse technique pour qualifier le recours aux techniques de procréation médicalement assistée quand il s'agit d'un couple hétérosexuel qui utilise ses propres cellules sexuelles. C'est ce qu'on appelle les gamètes, l'ovule, le spermatozoïde. Ça ne pose pas de problème, à part l'intervention au milieu d'un laboratoire. Mais, je veux dire, on ne touche ni au principe de filiation, ni au principe de gestation. Dans ce cas précis, pour la gestation pour autrui, la parenthèse elle est plus simplement technique. Parce que là, on fait appel à l'intervention... à la participation et au vécu d'un être humain qui est extérieur au couple demandeur. Ça ne constitue plus une solution éventuelle à la stérilité d'un couple, mais la réponse à un désir d'enfant d'un couple dont la stérilité a été choisie volontairement, à défaut de l'être librement. On peut tourner le problème dans tous les sens, on ne pourra jamais faire un enfant entre deux hommes ou entre deux femmes. Un petit problème de définition, peut-être d'abord, pour rappeler que donc la gestation pour autrui, c'est le recours à une mère porteuse, ce qu'on appelait autrefois les mères porteuses, procédé par lequel une femme porte un enfant pour le compte d'un autre couple, d'autrui, et s'engage à remettre cet enfant au couple demandeur à l'issue de l'accouchement. Ça fait l'objet d'un contrat qui est signé, et ce contrat est signé entre la mère porteuse et les parents d'intention, ce qu'on appelle les parents d'intention. Elle fait l'objet, bien sûr, elle est encadrée, théoriquement, elle fait l'objet d'une rémunération. Rémunération qui est variable selon les pays, selon les législations, selon les intermédiaires. Ça peut aller jusqu'à plus de 100 000 euros, quoi. Donc là aussi, on voit qu'il y a là une inégalité aussi dans l'accès possible au niveau financier, simplement. Alors, pour rester simple, il faut quand même que je vous dise quelques mots des techniques utilisées pour ces gestations pour autrui. En gros, on peut dire qu'il y a trois techniques. D'abord, la fécondation in vitro, ça tout le monde en a entendu parler. On utilise les ovocytes, les ovules de la femme demandeuse et le sperme du conjoint. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Les parents d'intention sont bien les vrais parents du futur embryon. Et on implante l'œuf ainsi fécondé in vitro dans l'utérus de la mère porteuse, qu'on appelle aussi mère gestatrice. L'enfant aura ainsi deux mères. Il aura la mère gestatrice et la mère biologique qui a donné son ovule. C'est ce cas de figure qu'on rencontre chez un couple hétérosexuel, par exemple, stérile, dont la stérilité est due à l'utérus de la femme qui est soit absent de façon congénitale par malformation de naissance, soit qui a été opéré à la suite d'une tumeur ou d'une complication qui n'a plus d'utérus, mais qui garde quand même ses ovaires et qui continue à avoir des ovules. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est l'insémination artificielle de la mère porteuse avec le sperme du conjoint de la femme demandeuse stérile. Alors là, à ce moment-là, on utilise l'ovule de la mère porteuse, l'utérus de la mère porteuse et le sperme du mari demandeur. L'enfant, dans ce cas-là, aura également deux mères, la mère biologique et gestatrice, réunie en une seule, et la mère éducatrice, qui recevra l'enfant, qu'on appelle encore mère sociale. Vous voyez, déjà, le fait de la multiplicité des vocables induit déjà le trouble. Et il y a enfin à la fécondation in vitro, avec les ovocytes d'une donneuse d'ovocytes, donc une femme qui va donner ses ovules, fécondée avec le sperme du conjoint, puis implantation de l'embryon chez la mère porteuse. L'enfant aura ainsi trois mères. Il aura la mère biologique qui aura produit l'ovule avec son capital génétique, enfin ses chromosomes, la mère gestatrice qui va porter l'enfant et le mettre au monde, et puis la mère éducatrice ou sociale qui va le recevoir et qui va l'élever par la suite. C'est cette dernière technique qui est le plus souvent utilisée par les couples d'hommes. Dans ce cas, l'enfant n'aura pas de mère. On a parlé de l'enfant sans père pour les couples lesbiens. Là, on a l'enfant sans mère, qui n'aura que des pères. Il n'aura pas de mère sociale ou éducatrice. Qu'est-ce que nous dit la loi dans ce domaine ? C'est quand même intéressant de savoir. selon des chiffres qui sont de 2014. Je n'ai pas de chiffres plus récents, mais 2014, on peut dire qu'un enfant né par GPA arrive en France tous les 3 jours. C'est quand même, c'est pas énorme, mais c'est pas rien quand même. On compte actuellement 5000 enfants nés de GPA, à l'étranger bien sûr, puisque chez nous c'est interdit, et qui vivraient sur le sol français. Sur ces 5000 enfants, 60% vivent dans des familles hétérosexuelles. Je veux dire, la demande des couples homosexuels ne représente que 40%. La circulaire, dont on a vu que vous avez peut-être entendu parler dans la presse que ces problèmes de naissance à l'étranger posaient des problèmes de reconnaissance au niveau de l'état civil en France. Hein ? Donc c'était l'objet de la circulaire Taubira en 2013, janvier 2013, qui a autorisé la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés par GPA à l'étranger, commandés par des parents d'intention française. Donc la GPA, je vous l'ai dit, elle est interdite en France, elle est interdite aussi en Suisse. En Belgique, elle n'est mentionnée par aucun texte, mais elle se pratique, en dehors de tout cadre juridique explicite. Donc ça, on est dans le flou. L'expérience de la Grande-Bretagne est intéressante parce qu'ils ont voulu encadrer très, très étroitement, juridiquement, la pratique de la GPA. Et l'expérience prouve que l'existence d'un système qui soit légal, bien encadré et juridiquement sécurisé n'a pas mis fin aux pratiques illégales clandestines. Donc on garde toujours le recours à cette clandestinité pour les mères porteuses. Alors, bien sûr, avant d'envisager toutes les considérations éthiques que ça soulève, un petit rappel peut-être sur ce que peut nous dire la Bible de ce genre de problème. C'est vrai que dans la Bible, ce sujet des mères porteuses semblait être une pratique courante. Une pratique courante parmi les rites d'adoption d'enfants. C'était quelque chose qui se pratiquait très fréquemment dans l'Orient ancien et on y avait recours sans aucun problème. Vous allez me dire qu'on avait aussi recours à la polygamie, à l'esclavage et à des tas d'autres pratiques aussi. Largement aussi racontées dans la Bible. C'est vrai que le premier exemple qui nous parle, c'est l'exemple de Sarah et d'Abraham. Sarah, épouse d'Abraham, fait appel à sa servante, Agar, pour donner une postérité à Abraham, ainsi conjurer la stérilité qui la frappe. Et ceci malgré la promesse de Dieu de lui donner une postérité. Ça c'est, bon, je ne veux pas les lire, je ne pense pas que ce soit utile, mais je vous ramène à Genèse 16, les versets 1 à 3. Elle va donner naissance donc à Ismaël. Agar va donner naissance à Ismaël, mais l'enfant de la promesse restera Isaac. Ceci étant dit, Ismaël ne sera pas privé non plus de bénédiction de la part de Dieu. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit retenir pour nous, qui nous questionne aussi aujourd'hui. Hein. L'enfant de la promesse donc reste quand même Isaac, c'est évident. Les cas rapportés ne concernent pas toujours seulement une stérilité seule, mais parfois aussi un désir de promouvoir sa préséance sur une rivale. Et ça, c'est plus fréquemment rencontré dans la Bible et relaté. Voilà. Il est d'ailleurs remarquable de noter que c'est souvent la femme aimée qui fait l'objet d'une qui est stérile, alors que la femme bafouée ou rejetée, elle, au contraire, est féconde. Ça aussi, ça doit nous interroger. Cette illustration est illustrée par les deux épouses de Jacob, comme nous l'a rappelé Samuel, Léa et Rachel, et leurs servantes respectives, Zilpa et Bila. Léa, qui était l'épouse en quelque sorte obligée, imposée à Jacob par Laban, est rendue féconde et va donner naissance à 4 fils, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Alors que Rachel, la bien-aimée, celle qui, sa cadette, qui lui était préférée, elle est stérile. Jalouse de sa sœur, on peut la comprendre, elle propose à Jacob sa servante Bila. Et de la même façon, cette servante va enfanter pour Jacob 2 fils, Dan et Nephtali. Voyant alors qu'elle n'enfantait plus, je trouve cet exemple est vachement... Léa demande à Jacob de prendre sa servante Zilpa, qui lui donne à son tour 2 fils. Gad et Aser. On est dans la surenchère à chaque fois. Hein? Gad et Aser. Mais à la suite d'un marché avec Jacob, Léa retrouve les faveurs de son mari, enfin de Jacob, et l'enfante encore, elle lui donne encore 2 fils et une fille, Issachar, Zabulon et Dina. C'est alors que Dieu rendit Rachel féconde. Il a quand même mis le temps, quoi. Hein? Rachel va enfanter Joseph, puis elle meurt en couche en donnant naissance à Benjamin. C'est vrai que dans le judaïsme de l'époque, la stérilité était vécue comme une opprobre, hein, une malédiction, alors que la fécondité, c'était la marque de la bénédiction de Dieu, la réponse même au commandement créationnel, hein, croissez, multipliez. Bon, il s'agit alors de répondre coûte que coûte, on le voit bien, à ce commandement. Alors là, je fais un petit parallèle, mais qui n'a rien à voir en fait. Mais quand même, avec la loi du Lévirat, ça concerne les hommes cette fois-ci. Mais cette loi qu'elle est décrite dans le Deutéronome, on est ici face à une stérilité qui est due au mari, au décès du mari. Le mari meurt sans avoir donné de descendance à ce moment-là, et la loi va s'appliquer en intrafamilial. Le frère du mari défunt, à ce moment-là, étant appelé à être le géniteur, comme cela nous est relaté dans l'histoire de Judas et Tamar, par exemple, hein, en Genèse 38. Ou à défaut, quand il n'y a pas personne de la famille, proche, le plus proche parent, comme dans l'histoire de Boaz, Ruth et Boaz. Ruth, que certains commentateurs, à leur tour, considèrent comme un cas de femme, de mère porteuse, de GPA, parce qu'à peine a-t-elle enfanté qu'elle confie son enfant aux soins nourriciers de sa belle-mère Naomi, qui va l'élever. Bon, et qui donnera naissance, on le voit après, à la lignée qui va être à l'origine de David puis de Jésus. Alors, est-ce que la maternité de substitution serait biblique ? C'est vrai que la relation de ces épisodes avérés n'en légitime pas pour autant la pratique. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'esclavage, la polygamie étaient aussi relatés dans la Bible. Ce n'est pas pour autant que c'était bien, même si c'était bien vu à l'époque. Il témoigne au contraire de la volonté, du désir de l'homme de vouloir tout contrôler, hein, jusqu'à intervenir dans le projet de Dieu, en fait. Cependant, et ça aussi c'est une leçon, Dieu ne retire pas sa compassion à ses manques de foi, en quelque sorte. Il garde une main bénissante sur les enfants issus de ces maternités, même de substitution, bénédiction que l'on peut retrouver sur Ismaël, bien sûr, sur les enfants de Jacob, qui, toute origine confondue, les légitimes comme les adultérins, vont être à l'origine des 12 tribus d'Israël, quand même. C'est pas rien, quoi. Hein? Sans parler de la descendance de Ruth, comme on l'a dit tout à l'heure, qui aboutira à David et à Jésus. Alors ça, c'est, à mon avis, un élément qui doit nous inciter quand même à avoir un regard, j'allais dire, compatissant envers les enfants qui sont nés de GPA, à l'étranger, donc. Parce que si on refuse de considérer ces maternités comme légales, on doit toutefois accepter leur inscription à l'état civil. Ces enfants ne sont pas responsables, effectivement, des circonstances de leur naissance, et ils auront déjà suffisamment à faire avec les conditions familiales particulières dans lesquelles ils vont évoluer après, qui ne sont pas toutes les mêmes, mais bon, là, je ne fais pas le détail. C'est vrai, les conditions familiales dans lesquelles ils vont se construire sont variables lorsqu'il s'agit d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel. Un couple sans père, un couple sans mère. Alors, on a beau dire qu'il y a toujours des figures de substitution. Oui, il y a une figure paternelle, c'est le grand-oncle là derrière qui fait figure de... Je ne pense pas que ce soit pareil. Même s'il y a, je veux dire, par exemple, parmi tout homme, je veux dire, une part de féminin où on peut avoir de l'amour maternel pour ses enfants et vice-versa, pour une femme, avoir, je dirais, comment dire, une certaine poigne pour élever et éduquer un enfant. Le problème n'est pas là, on ne met pas en cause de telles choses. Oui, on a appelé souvent ces enfants les enfants fantômes de la République, parce qu'ils n'avaient aucune existence légale. Par contre, cela a fait l'objet d'une précision de la Cour européenne de justice, qui avait condamné la France, parce qu'elle refusait de reconnaître ses enfants à l'état civil. Alors, ça a été là aussi mal vécu. Parce qu'on a dit, bon, ben, c'est bien, on a une législation qui interdit la GPA, on est clair, on est droit dans nos bottes, mais par la bande, on a ces enfants qui nous reviennent et qu'on est obligé de, quelque part, de valider. Donc c'est une façon détournée d'accepter le mécanisme. On a parlé à ce sujet d'un véritable blanchiment de marché procréatif, en rendant caduque, bien sûr, l'interdiction de la GPA. Alors la maternité de substitution, la GPA, les mères porteuses, ont-elles leur place parmi les techniques de PMA, procréation médicalement assistée? Alors c'est là que je vais aborder les problèmes éthiques. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça vient nous interroger sur notre conception de l'être humain. Parce que tous peuvent trouver des contradicteurs, je dirais. Les principes que je vais énoncer trouvent leur contradiction. Et, je disais, une contradiction parfois sensée et recevable. Il n'empêche que c'est quand même notre compréhension de l'humain et quelque part donc de Dieu qui est mise en cause. Il y a d'abord l'établissement d'un lien de dépendance sociale, pouvant confiner parfois à l'esclavage. Pour s'en convaincre, bon, il suffit de regarder quels sont les pays pourvoyeurs de mères porteuses. Et bien souvent, il faut reconnaître que ce sont des pays, soit les pays d'Europe de l'Est à faible niveau de vie, l'Inde, avec sa pauvreté, j'allais dire, endémique, et sa surpopulation, la population noire aux États-Unis, et les femmes des ghettos d'Amérique du Sud. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a des cas, on pourra relater des cas de mères porteuses issues de milieux favorisés et qui ont fait ça par pur altruisme. Ça existe aussi. Donc on voit d'emblée quand même par ce recensement l'exploitation qui est faite de ces populations qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bon, alors là, j'avais mis une question qui est peut-être un peu provocatrice, c'est-à-dire, a-t-on jamais vu une femme de milieu social aisé porter l'enfant d'une autre? Pas vraiment. Pourtant, ça existe. Ça existe, quand même. La Bible, d'ailleurs, abonde dans ce sens, dans la mesure où les mères porteuses sont toujours des servantes ou des esclaves. Elles ont toujours un lien de subordination, de dépendance par rapport à leur maîtresse. Autre problème qui pose problème, c'est la contrepartie financière. Alors, on parle d'ailleurs d'indemnisation. Ça pose le problème de la non-disponibilité du corps humain. Comment peut-on vendre son corps, même pour une période donnée? Comment peut-on, que ce corps fasse l'objet d'une marchandisation, hein, pour la mère et pour l'enfant? D'ailleurs, le terme même d'indemnisation laisse à penser qu'il y a un dommage à réparer quelque part. Hein, bon, c'est vrai qu'on ne s'étend pas trop sur ce dommage à réparer. C'est vrai qu'on a tendance à en grossir ou en minimiser l'impact. Quand on est contre, on grossit. On a tendance à grossir l'impact. Quand on est pour ou qu'on en a bénéficié, on a tendance à le minimiser. Non, mais c'est pas... Quand même, c'est quelque chose de naturel, une grossesse, n'est-ce pas? J'ai fait une bêtise, là. Oui, bien plus que le simple don de soi. C'est pas simplement un don de soi, hein, dans le cas d'un utérus, de mère porteuse. C'est pas un simple don de 9 mois de sa vie, avec tout ce que ça sous-entend de précautions, de contraintes imposées à ces femmes, par contrat d'ailleurs, hein, tant sur le plan alimentaire que sur le plan social, que sur le plan sexuel. Il ne faut pas oublier que la gestation en général constitue une menace potentielle, hein, sur la vie, sur la santé, qui peut laisser des séquelles définitives chez une femme, hein, sans parler du risque vital qui peut être mis en jeu lors de l'accouchement, certaines de ses complications. L'invocation d'une éthique compassionnelle. Alors là, ça, c'est plus dur à critiquer. Comment dire, vouloir faire du bien aux autres, quoi de plus noble but? Le choix des mots est lui-même significatif, c'est pas anodin. Hein. Alors, au début, j'avais mis en titre « Maternité de substitution, gestation pour autrui », autrement dit « mère porteuse ». Il y a une espèce de... ou de crescendo, ou de décrescendo, selon le sens... Maternité de substitution, on fait appel à des termes très propres, très aseptisés. Maternité, on ne parle que d'une fonction. On ignore totalement la personne qui est derrière. Gestation pour autrui, là aussi, c'est la fonction biologique de gestation qui est mise en avant. Pour autrui, il n'y a aucun problème. Hein. C'est quoi de plus noble? Mère porteuse, déjà, ça a plus de mal à passer. Hein. La mère, là, on l'a oublié un peu dans ce... Ou, d'abord, qui est la mère, hein? Tout à l'heure, je vous ai énoncé les cas où il y avait 3 mères potentielles dans l'histoire. Hein? L'invocation d'une éthique compassionnelle, alors, voilà. Certains préfèrent le terme de gestation par autrui, je vous ai dit tout à l'heure, pour mettre l'accent sur l'instrumentalisation d'une femme qui est, en fin de compte, réduite à une simple matrice. Pendant 9 mois, elle va porter l'enfant pour quelqu'un d'autre, qu'elle devra abandonner à la naissance et donner au couple demandeur. Il ne faut pas oublier que la GPA n'est pas que le don de soi, elle est aussi le don d'un autre. Et ça, on a tendance à l'oublier. On donne un enfant. Peut-on donner un enfant? Alors, je sais qu'il y a des cultures, des civilisations dans lesquelles c'est quelque chose qui se fait couramment, où on donne un enfant et sans que ça pose de problème. Il y a peut-être un cas particulier à signaler qui est le cas du don gratuit de la gestation pour autrui en intrafamilial. Ça, c'est un cas de figure très particulier, parce qu'à ce moment-là, ça fait l'économie, si je puis dire, de tout élément financier. Il n'y a aucun élément de contrat, de juridique dans l'histoire. Il n'y a pas de commerce. dans l'histoire. C'est vraiment du don, hein, à ce moment-là. Alors, est-ce que ça serait éthiquement plus recevable ? Bon, s'il consistait simplement en un utérus de substitution entre une mère et sa fille, par exemple, comme on a pu le voir, ou entre deux sœurs, ne faisant intervenir que les gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices du couple demandeur, ça ne remettrait pas en cause le principe de filiation et de génération. Toutefois, on peut se demander si le sentiment de reconnaissance extraordinaire qu'on ne peut qu'imaginer, je veux dire, mais est-ce qu'on arrive même à l'imaginer ? Sentiment de reconnaissance alors généré ne serait pas de nature à créer un état de dépendance qui pourrait quelque part être aliénant pour les relations familiales futures. Ça, c'est des questions, bon, vous allez me dire, c'est des questions de psychiatre, c'est des questions de... Mais elles se posent quand même, elles se posent quand même. Donc on le voit même dans les cas, parce qu'ils existent, ces cas, je dirais qu'ils sont éthiquement, qui paraissent éthiquement recevables, ce n'est pas dénué d'un certain risque aussi. Hein. Bon, ça explique aussi que certaines équipes orientent leurs recherches sur les utérus artificiels. Vous avez peut-être entendu parler des utérus artificiels. Ce n'est pas encore au point. Hein. Mais bon, il y a des équipes dans le monde entier qui travaillent là-dessus pour essayer de, j'allais dire, faire l'économie de cette personne, de cette tierce personne à laquelle on fait appel. La GPA, ça pose pas seulement le problème de la grossesse, mais ça pose aussi le problème de l'accouchement. Bon, et là, c'est sûr que les femmes me comprendront mieux. Deux événements qui mettent en jeu la santé de la femme et parfois sa vie, pouvant laisser des séquelles invalidantes, on l'a dit, définitives. Bon, pour mémoire, je vous rappelle le dicton populaire d'autrefois qui disait qu'une femme enceinte avait un pied dans la tombe. Donc c'est qu'on mesurait aussi le côté dangereux que représentait la grossesse et l'accouchement à l'époque, même maintenant. Bon, certes, les temps ont changé, les conditions ne sont plus les mêmes, mais les risques, bien que rares, ils existent toujours. Hein. Il y a encore de nos jours des femmes qui meurent en couche, hein, qui meurent en accouchant, ou lors de l'accouchement, ou dans les suites de l'accouchement. J'ai recueilli là un chiffre que j'ai noté quand même en 2016, donc c'est quand même pas très vieux. Il y a eu 85 femmes qui sont mortes en accouchement sur, vous allez me dire, sur 811 510 accouchements en général. Donc ça fait une pour 10 000. Donc si on veut chiffrer, j'allais dire, la mortalité maternelle, c'est 1 pour 10 000. Mais c'est pas rien quand on est la concernée, hein. Et la famille de la concernée. Alors, c'est la question qui en découle, c'est est-ce qu'on peut, dès lors, légiférer sur cette gestation pour autrui, compte tenu de ses caractères aléatoires ? Est-ce qu'on a le droit d'établir des règles quand on sait que là, on joue quelque part un peu sa peau, en tout cas la peau d'une autre, là, hein ? Bon, et puis enfin, pourquoi ? Pourquoi ce désir, j'allais dire, forcené, je le mets entre guillemets. Le désir d'enfant, c'est vrai, pour légitime qu'il soit, est-ce qu'il implique automatiquement un droit à l'enfant ? Au nom d'une prétendue égalité, on en a parlé tout à l'heure, c'est le grand principe qu'on soulève à ce moment-là. Le recours aux techniques de PMA devrait-il être accessible aux couples homosexuels comme aux couples hétérosexuels ? C'est vrai qu'un couple homosexuel sera toujours par définition stérile. Donc, je dirais là, on n'a plus affaire à une stérilité pathologique, mais à une stérilité sociale voulue, quelque part. Au nom de la liberté de choisir sa sexualité, et donc pallier à une stérilité volontaire. Bon, oui, certains disent, oui, effectivement, écoutez, moi j'ai le droit de choisir, c'est ma vie, c'est mon choix. Peut-on mobiliser les ressources de la médecine? Parce que ça coûte cher, hein, le recours aux techniques de PMA. Est-ce qu'on a le droit de mobiliser la médecine et donc la sécurité sociale, donc l'argent public pour ça? Ça, alors, ça fait l'objet d'un contre-exemple éthique, d'éthique économique et sociale. L'enfant, le désir d'enfant, au nom du droit à fonder une famille. Bon, je suis marié devant la loi, comme tout le monde, j'ai droit à fonder une famille. L'adoption est d'ores et déjà ouverte aux couples homosexuels. Cependant, quand on connaît les difficultés, effectivement, de l'adoption pour un couple hétérosexuel, et le parcours du combattant que ça représente, hein, on imagine l'allongement des listes d'attente. Bon, puis dans cette histoire, enfin, on a parlé du droit à l'enfant, mais où est le droit de l'enfant ? Droit de l'enfant à avoir un père et une mère, ça, je veux dire, c'est la charte des Nations Unies pour le droit de l'enfant, hein. Droit de l'enfant à avoir un père et une mère. Droit de l'enfant à connaître ses origines aussi. Hein, ce qui est aussi gênant dans les techniques de PMA. On ne parle plus des couples homosexuels, là, hein, mais je veux dire, même dans le recours à une paillette de sperme, bon, pour lequel l'anonymat est garanti, hein, actuellement, toujours, c'est difficile. On est devant la quadrature du cercle. On a du mal à... Dans tous les cas, on voit bien qu'à l'issue de cette espèce de survol rapide que je vous ai fait, la gestation pour autrui, ça ne peut pas constituer une éventualité qui figure au catalogue des techniques de PMA. Ce n'est pas possible. À aucun moment, d'ailleurs, la Bible, pour en revenir toujours à elle, parce que c'est quand même elle qui, quelque part, est notre fil conducteur dans nos vies, à aucun moment la Bible ne nous laisse entendre un droit à l'enfant. Au contraire, elle fait de l'enfant un don de Dieu, dont les droits doivent être reconnus comme créature, à l'image de Dieu. C'est à nous qu'il incombe de veiller à ce qu'il soit respecté dans sa fragilité. C'est une véritable bénédiction, et c'est pour ça qu'on comprend quand même d'autant mieux le désarroi des couples qui sont privé d'enfants, hein, qui doit faire l'objet d'un accompagnement particulier, d'un accompagnement pastoral. Hein, je pense au pasteur. J'aborde pas ici l'accompagnement des couples homosexuels, ni des personnes homosexuelles. C'est un autre problème, mais qui aussi ont besoin d'un accompagnement au niveau de nos églises, au niveau de nos communautés. Hein. Bon, ce rapide survol de la question nous montre les débordements et les problèmes éthiques soulevés par un prétendu droit à l'enfant, suite à un désir que l'on peut comprendre, mais qui reste du domaine du désir. Bon, et pour conclure, je vais citer un philosophe, c'est toujours bien, Pierre Lecause, qui dit « Le patient peut exprimer un désir ». Mais un désir n'est pas un droit. Et un droit, de toute façon, s'accompagne du devoir de tracer les limites de son ressort. Merci pour votre patience et votre attention.
Merci, Joël. Il y a des questions ?
Questions.
Ou des commentaires ? Oui, il y a Daniel qui intervient là-bas.
Ok. Voilà, déjà merci pour l'exposé très clair. Voilà, parce que ça permet de mieux comprendre, même si on ne comprend pas tout. Juste une question au début, vous parlez du comité d'éthique, dont vous êtes notre délégué, c'est ça ? Peut-être expliquer un petit peu comment fonctionne le comité d'éthique et comment s'est fait ce vote, déjà. Alors, si vous pouvez.
Voilà.
Merci.
Alors effectivement, il peut y avoir ambiguïté. On parle beaucoup d'éthique, de comité d'éthique, il y en a partout maintenant. Parce que d'abord, ça donne une légitimité aux choses, ça donne une espèce de valeur. Il n'y a pas un congrès, il n'y a pas un truc, sans qu'il y ait un petit volet éthique. On est mieux après. Alors, le CCNE, Comité Consultatif National d'Éthique, tout le monde en a entendu parler, il a été créé par François Mitterrand. Et il fait appel à des personnalités... philosophes, moralistes, représentants des grands courants religieux, théologiens. Ah oui, oui, au départ, je précise. Au départ, c'était ça. Et puis, très vite, ça a évolué, parce qu'on vit dans un monde qui est séculier, qui est... Et très vite, on a vu... les courants religieux se faire reléguer sur la touche et lors des renouvellements, ne pas être renouvelés et remplacés par des gens plus souples, plus accommodants, plus moins...
tranchés.
Voilà, plus libéraux, on va dire.
Mais qu'est-ce qui
nomme,
c'est le ministère
qui... oui, 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 oui. C'est le... Alors... j'ai peur de vous dire des bêtises, hein, mais je ne sais pas si c'est le Premier ministre ou le Président de la République. Mais ça part à un très haut niveau. Hein, je veux dire, ah. Et ce n'est pas anodin, bien sûr. Alors, ce comité consultatif, il est consulté, comme son nom l'indique. Il a un avis consultatif. Ce n'est pas lui qui fait les lois, bien sûr. Hein, mais il est quand même écouté. Il est quand même écouté. Et puis, on fait en sorte quand même que ces recommandations... aille dans le sens de la politique qu'on mène. Bon. Voilà. Alors, c'est pareil. Hein, là, dans ce comité consultatif d'éthique, je vous ai dit, il a voté l'extension de la loi aux femmes seules et aux couples de femmes homosexuelles. Tout le monde ne l'a pas voté. On dit le comité a voté. Mais il y a une majorité à voter pour, mais il y a quand même une assez forte minorité qui a voté contre. Voilà. J'ai plus les chiffres en tête, mais... alors ça, c'est le comité consultatif d'éthique. C'est, je dirais, une émanation de la République, on va dire.
Et...
vous êtes combien ? Ah non, non, non. Moi, j'en fais... Oh là là, j'en fais pas partie, moi. Non, non, non. Ça, c'est des... Non, non. Et puis, vous avez chaque confession, quelque part, chaque institution qui a son propre comité d'éthique. Dans les hôpitaux, par exemple, vous avez un comité d'éthique qui est là pour discuter des problèmes soulevés. Est-ce qu'on débranche Vincent Lambert ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on réanime cet enfant qui est en coma dépassé depuis X temps ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce que... Voilà. Ça, ces cas-là, c'est des cas qui se posent tous les jours.
Et les genoux, pour ceux qui ne savent pas, il y a Charles-Nicolas qui est
en partie.
Voilà, oui, 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 oui. Et c'est bien qu'il y ait des personnes, parce que bien souvent, ces comités d'éthique sont constitués par le personnel de l'hôpital, hein, personnel soignant. Moi-même, quand j'étais en activité, j'en faisais partie aussi. Hein. Donc, il y a des médecins, des infirmières, tout le monde est invité à donner son avis. Personne n'est exclu. Et puis, on fait appel à des personnels, parce qu'on en a besoin quand même pour mener une réflexion, on a besoin de gens dont la réflexion vole un peu au-dessus des autres quand même. On a besoin de gens qui sont au-dessus de la mêlée. On a besoin de philosophes, on a besoin de moralistes, de théologiens, de haut niveau pour nous ramener parfois dans le droit chemin, quoi. Hein. Parce qu'on a tendance à naviguer à vue. Donc ça, il y a les hôpitaux. Vous avez les comités d'éthique. Alors, dans les grandes institutions religieuses, vous avez une commission d'éthique à la Fédération protestante de France, qui ne s'appelle pas commission d'éthique, qui ne s'appelle plus commission d'éthique, qui s'appelle commission Église et Société, mais qui a lieu de commission d'éthique. Et puis, il y a la commission d'éthique protestante évangélique, celle dont je fais partie. Hein? Donc, c'est une commission d'éthique qui a été créée, je dirais, par trois unions d'églises, la Fédération Baptiste, les Églises Libres et l'UNEPREF. Voilà. Et ces membres, donc, sont, je dirais, issus de ces trois courants. Donc, protestants, on se revendique du protestantisme, bien sûr, mais évangélique, c'est quand même pas rien non plus. Hein. Pour apporter une précision à ce que disait Samuel en préambule, lorsqu'il m'a introduit en tant que membre du comité d'éthique du CNEF, non, le CNEF n'a pas de comité d'éthique. Hein. Le CNEF n'a pas de comité d'éthique. Par contre, il a des problèmes éthiques qu'il souhaite voir traités, alors, et qu'il nous sous-traite, je dirais, en quelque sorte. Alors, quelque part, ce n'est pas tout à fait faux, puisqu'on travaille un peu pour eux aussi. Et eux, on est bien contents de les avoir parce qu'ils ont un appareil de communication qui est vachement au point. Et eux, ils ont une oreille, ils ont un système de pastoral pour les parlementaires. Il y a un service pastoral pour les parlementaires, c'est-à-dire un pasteur dédié pour les députés et pour les sénateurs. Donc, je veux dire, quand on a des trucs à faire passer, vous allez me dire c'est du lobbying, un peu quelque part, mais quand on a des idées à faire passer, voilà, là on est sûr d'avoir une oreille attentive. Est-ce qu'elle sera suivie des faits? Ça, c'est une autre question, mais voilà. Donc moi, pour en revenir à moi, tu me demandais comment j'y étais.
Oui, déjà pour comprendre un petit peu le système, voilà. Et puis vous.
Alors, j'ai toujours fait de l'éthique parce que, de par mon métier, j'étais confronté tous les jours à des problèmes éthiques. Des problèmes, il faut bien les résoudre. C'est pas que sur du papier, c'est pas des mots en l'air, quoi. Ça correspond à des situations vécues, douloureuses, et douloureuses pour tout le monde. Et donc, je me suis toujours intéressé à ça. Petit à petit, après, quand les comités d'éthique dans les hôpitaux ont été créés, bon, j'y suis rentré, bien sûr. Mais en étant, bien sûr, toujours confronté au fait qu'il y a une éthique recevable par tout le monde, et puis il y a une éthique qui n'est concevable que pour les chrétiens. Si, ce que j'ai dit là, je peux le dire devant des non-chrétiens, mais je veux dire, est-ce que ça aura la même portée? Ils vont me dire, attendez, ça c'est du jargon voilà, du patois de Canaan, c'est pas c'est ça, ça nous touche pas, nous. Hein, nous, ce qui nous touche, c'est l'égalité, le souci des autres, voilà. Bon, dans ces cas-là, on voit qu'il y a des éthiques à géométrie variable aussi. Hein.
Je reprends les personnes handicapées.
Est-ce qu'une personne handicapée est concernée? Mais concernée par quoi? Oui, quelque part. Oui, dans la mesure où... mais bon, là, on sort du cadre de la stérilité et de la... Oui, bon. Est-ce qu'une personne handicapée est stérile? Pas toujours, loin de là. Est-ce que... Voilà, pas toujours, non.
Moi, mon souci, c'est pas un souci, mais je constate quand même que dans la Bible, la préoccupation, elle est beaucoup plus sur l'enfant orphelin, qu'il faut en prendre soin. Et c'est vrai que je vois pas tellement de préoccupations pour les parents, bon, si ce n'est d'avoir de la peine pour eux et que Dieu les bénit parfois, des moments. Donc pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus l'accent finalement sur le traitement de l'adoption ou de replacer des enfants qui sont dans des familles en difficulté?
Oui.
Plutôt que de focaliser sur ces questions de GPA.
Oui.
Parce qu'il y a des enfants qui sont en souffrance et qui auraient besoin d'avoir de vrais parents.
Oui. Oui. Alors bon, ça c'est une question effectivement qui est, enfin, à laquelle je ne suis pas compétent pour répondre. Je ne peux qu'abonder dans votre sens. Je peux être d'accord avec vous. C'est vrai que c'est on a pris le problème à l'envers. Mais le problème, il est toujours du côté de ceux qui crient le plus fort. Je veux dire, c'est eux qui se font entendre et c'est eux qui se font remarquer et pour lesquels on fait des choses. Hein? Il faut faire du tapage, il faut faire du bruit, il faut boucher les rues, il faut pour se faire entendre. Alors c'est sûr que les enfants malheureux, il n'y a pas de voix pour eux, il n'y a pas de voix qui les porte. Quoi, je veux dire.
Le problème aussi, c'est que c'est la société qui cause les problèmes.
Voilà.
Qui donne les sujets à traiter, je dirais.
Oui, tout à fait. Et qui se charge d'ailleurs de botter en touche tout ce qui est sujet épineux, gênant. Bon, ça on verra plus tard. C'est pas important dans les médias. Ouais.
Il y a aussi un problème légalement. Un enfant qui est dans une maison, par exemple, ses parents sont en prison, etc., etc. Si, parce que moi j'avais été concernée à une époque où je m'étais.
J'ai jamais été en prison. Hein.
un enfant qui est complètement abandonné par ses parents, etc. S'il reçoit 10 euros par an. D'une arrière-grand-mère ou d'une grande-tante ou n'importe quoi, il est considéré non adoptable.
Oui, il ne peut pas être adoptable.
Donc c'est terrible, parce qu'il y a des maisons d'enfants qui sont pleines de ces enfants-là.
Oui.
Qui n'ont personne.
Qui ne sont pas adoptables et qui, en fait, sont abandonnés.
Ils sont abandonnés.
Oui.
Oui, mais tout le monde le sait.
Oui.
La société, l'État le sait.
Christine. Non, je conclue. On va pas abandonner ces lois là.
J'ai été interpellée par ce que vous avez souligné dans le fait que malgré qu'en Angleterre il y a un cadre légal précis. Il y a pourtant toujours une clandestinité, une pratique dans la clandestinité.
Oui.
Et parce que moi, tout au long de cet exposé et tout au long de ma réflexion personnelle, qui ne date pas d'aujourd'hui, je me pose la question de la conscience. Ouais. Parce que est-ce que ça ne veut pas dire aussi que la conscience est quand même... altérée, la conscience humaine est altérée, mais est-ce que justement il n'y a pas quand même les personnes ne sont pas reprises dans leur conscience? Est-ce que ce n'est pas un signe, le fait que ces pratiques se poursuivent dans la clandestinité? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Parce que bon, c'est quand même très lourd de conséquences, et je pense à l'enfant qui grandit dans des conditions sans connaître vraiment sa filiation, sans oui. toujours être au courant.
Oui.
Ça pose beaucoup de problèmes pour le développement de l'enfant
bien
aussi.
Bien sûr, bien sûr. Ben, je crois que là, on touche le commerce, en fait. C'est le commerce. Vous trouverez toujours des commerces installés qui payent leurs patentes, qui payent leurs trucs, qui obéissent aux lois, et puis à côté, des gens qui vendent sous le manteau des trucs... sans payer de patente, sans payer de taxes, sans facture, sans rien. Donc, c'est ça que ça relève.
C'est premièrement une histoire d'argent.
Oui, 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 oui. Non, je pense... Non, c'est pas la conscience, parce que les gens qui... Enfin, encore une fois, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais il me semble que les gens qui ont recours à ces techniques ont épuisé tout le reste. Ont épuisé tout le reste, et il n'y a pas d'autre solution. Et ils sont tellement perdus, tellement malheureux, tellement peut-être aussi tournés vers eux-mêmes.
Oui,
vers, enfin, je ne voudrais pas revenir sur le message de ce matin, mais on est en plein dedans, quoi. Hein. Est-ce qu'on n'est pas... voilà, là, on finit par ne plus voir tout le reste. Et ce qui compte, c'est quelque part son ego. Son ego. Je ne vous ai pas parlé, mais peut-être je vais en dire un mot, là. Il y a un cas particulier peut-être de la Floride, hein, aux États-Unis, qui a une législation très particulière pour la GPA. Elle autorise la GPA, mais sous réserve que ça soit que la femme, la mère porteuse, soit dans un couple que ce soit que le mari ait donné son accord, qu'ils aient eux-mêmes déjà des enfants, et enfin qu'ils aient un travail et un niveau de rémunération qui les mettent à l'abri, je veux dire, du besoin, que la rémunération qu'ils vont toucher ne soit pas une, comment dire, une incitation pour eux à gagner de l'argent.
Oui.
Voilà. C'est ainsi que l'État de Floride, pardon, de Floride s'est donné bonne conscience. Est-ce que, bon, je vous le livre comme ça.
Moi, je me pose une question. Est-ce que la femme mère porteuse dans ce genre de pays, n'importe lequel qu'il soit, mais je dirais plutôt quand il n'y a pas de problème financier, évidemment, qui se pose, est-ce qu'elle a le droit de revenir sur sa décision et de garder l'enfant?
Alors,
c'est une question que je me pose.
Je crois que ça dépend des... Oui, normalement, il me semble que dans les contrats, c'est prévu. C'est prévu, bon, moyennant, effectivement,
remboursement...
annulation du contrat, bien sûr, et remboursement des frais avancés. Oui, bien sûr.
Ça peut même aller loin, parce que c'est non seulement remboursement des frais avancés, mais si c'est l'ovocyte d'une autre femme, l'autre femme peut dire aussi, attendez, moi, j'ai donné mes ovocytes, vous me remboursez aussi.
Oui, mais c'est là où on fait la multiplicité des intervenants rend le problème de plus en plus compliqué. Hein.
Sûr que les cas juridiques seront pointés,
voilà.
C'est sûr.
Ouais.
En deux, chacun sa moitié.
Voilà. J'ai pas cité non plus, il y aurait tellement d'exemples à citer, mais parfois l'actualité, mais font état de ces cas particuliers de grossesse ayant fait appel à une mère porteuse et pour lesquels l'enfant se présente à l'arrivée avec une trisomie.
Oui.
Voilà, ben ça s'est posé, hein, ça s'est posé. L'enfant naît trisomique, le couple demandeur dit, attendez, moi j'ai pas demandé ça, hein. Moi je voulais un enfant comme ceci, je le voulais blond, je le voulais éteint, avec des yeux bleus, et point et fin. Ça c'est pas à moi ça. Mais il est abandonné, C'est arrivé en Australie, je crois.
Ouais. Et le cas particulier de vrais jumeaux?
Eh oui, ouais. Bon,
ça doit être prévu, ça.
Voilà, ils prennent des paquets, ça doit être prévu.
C'est vos jumeaux. Non, mais les vrais jumeaux sont
pareils. Ouais. Ouais, ça peut arriver. Alors, j'ai pas de cas à vous rapporter pour venir confirmer ou infirmer ça, mais oui, sûrement, ça doit arriver, hein. Ça peut arriver.
Je crois savoir, vous me direz, pour la PMA, ça arrive souvent qu'en fait, effectivement, il y ait plusieurs enfants. Parce qu'il y a...
Oui.
Voilà. Alors, c'est ça.
Ma mémoire parfois me fait un peu défaut. C'est un peu imprécis. Mais il me semble que j'ai souvenir d'un cas, je ne vous dirai pas dans quel pays c'est parce que j'en sais plus rien, où effectivement ça s'est produit. Il y avait des jumeaux et le couple demandeur a dit, attendez, moi j'en ai demandé un. On n'est pas en état d'en avoir deux. On ne pourrait pas en avoir deux. Donc on demande de faire ce qu'on... Parce que les diagnostics se font très tôt maintenant avec les échographies. Hein. Donc, on demande de faire une réduction, ce qu'on appelle très proprement en médecine, une réduction embryonnaire. Hein. C'est-à-dire que vous avez plusieurs de vos suites, paf, on va en zigouiller un ou deux, et puis pour ne garder qu'un seul. Et il me semble que dans ce cas précis qui avait été demandé, la mère porteuse s'est opposée à ça. Après la suite, je n'ai pas suivi. En fait. C'est sûr, on pourrait en faire tout un roman. Hein.
C'est terrible si tu sépares de vos jumeaux.
Ouais. Ouais. Mais on voit que, je dirais, plus on multiplie on multiplie les problèmes, en fait.
Mais bien sûr, on ne les résout pas. On multiplie que les problèmes, là.
On ne fait que multiplier. On ne multiplie pas les... On ne résout pas on multiplie pas les solutions, quoi. On multiplie que les problèmes.
Est-ce que dans ce genre de pratiques, des demi-frères ou des demi-sœurs peuvent pas se rencontrer dans la vie? Si des femmes de nationalités différentes s'alimentent à un manque de sperme et les enfants qui naviguent dans la nature, y a-t-il pas risque? Est-ce que le comité réfléchit avec un risque de ce genre ou des gens de même souche, un frère ou une demi-sœur peuvent se retrouver.
Oui, non, mais ça c'est le, j'allais dire, c'est un fantasme qui a été soulevé dès les origines. Dès les premiers centres de conservation du sperme, c'est quelque chose qu'on a soulevé. On a dit, mais attendez, les paillettes, tout ça, ça imaginez qu'un frère et une sœur, sans se connaître, se retrouvent, on va créer des individus consanguins, on va créer... Il y a un risque terrible. Bon, en fait, il semblerait que ce soit quasiment impossible, statistiquement peu probable.
Non, il y avait un reportage qui était passé un jour à la télé sur des femmes qui ont reçu également de la part des banques de sang. Et ces femmes, ils ont du sperme. Ces femmes, ils ont donné naissance à des enfants. Et quand ils font des recherches, ils sont tous retrouvés. Il y a un reportage qui a été passé dessus. Mais des femmes de nationalités différentes, mais avec les mêmes banques de sperme.
C'est possible, hein, voilà. Mais bon, c'est vrai que théoriquement, les centres de conservation du sperme ont des règlements qui sont, enfin du moins en tout cas chez nous, ont des règlements qui sont quand même très durs. Hein. On ne peut pas utiliser plus de tant de fois une paillette de sperme d'un même donneur. On ne peut pas... souvent, les paillettes sont utilisées, bien souvent adressées à l'étranger. Il y a des échanges, comme pour les greffes un peu. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste des centres de conservation du sperme. Hein.
Mais c'est un problème qui se pose à l'humanité sur le plan planétaire. Pourquoi l'organisation, disons, la méthode éthique ne puisse pas être planétaire qu'au niveau national? Parce que si la France a un cadre éthique beaucoup plus rigoureux, on voit très bien qu'ils arrivent à le contourner pour revenir encore vers nous comme un boomerang. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de mettre une plateforme sur le plan planétaire pour définir les règles clairement définies pour que les gens ne puissent pas le contourner?
Parce que, voilà, chaque pays a sa législation et il y est attaché. Chaque pays a ses intérêts financiers. Il y a des intérêts financiers énormes. Enfin, là, je ne me suis pas étendu parce que ce n'était pas le sujet directement.
Oui.
La GPA, c'est un sujet particulier. Mais la PMA, hein, la procréation médicalement assistée, ça fait appel à des structures, à des personnels spécialisés. C'est extrêmement onéreux. C'est quelque chose, c'est une rente, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Et on le voit bien, parce que quand il y a des techniques nouvelles qui viennent... quelque part, mettre à mal l'organisation des laboratoires existants,
oui.
Il y a un lobby qui se crée et les innovations sont enterrées. Bon, on l'a vu, enfin, ça, c'est une anecdote, hein, mais c'est quand même significatif. La plupart du temps, dans les fécondations in vitro, on utilise les ovules congelés. Là, il y a une technique qui consiste à vitrifier les ovocytes, ce qui permet d'éviter la multiplicité, hein, parce que dans la fécondation in vitro, vous êtes obligé d'utiliser plusieurs ovocytes. Ça veut dire que chez la femme qui va donner ses ovocytes, vous êtes obligé de créer une hyperstimulation, ce qui n'est pas quelque chose d'anodin, hein, c'est des hormones, ça a parfois un impact sur la survenue de cancers ultérieurs. Donc, c'est pas rien. Créer plusieurs ovules qui vont être fécondés, parce que pour en implanter, qu'il y en ait un qui pousse, qui grossisse, il faut parfois en implanter 3, 4. Plus on en implante, plus on a des chances qu'il y en ait un qui pousse. Donc, ce qui a donné lieu au départ, je vous fais un historique là, mais au départ de la fécondation in vitro, à une multiplicité de grossesses multiples, hein, où on avait des triplés, des quadruplés, enfin, je veux dire, que théoriquement, on ne voit plus maintenant, du moins dans nos contrées. Il existe des triplés naturels, hein, aussi, attention, ça existe, hein, mais bon, c'est quand même anecdotique, ça. Donc, je dirais, ce moyen qui est embêtant, parce qu'on va féconder ces ovocytes, même si on ne les réimplante pas tous, parce qu'il y a des codes éthiques que se fixent certains, pas tous, en disant, bon, ben non, ou bien que la patiente elle-même dit, attendez, moi, je ne veux pas qu'on m'en réimplante plus de deux. Deux, je suis prêt à supporter, mais pas plus. Ça ne fait rien, je prends ce risque, si ça ne marche pas, tant pis. Il y en a qui... ces embryons, puisqu'il s'agit d'embryons maintenant, hein, c'est des ovules fécondés, ils sont conservés, qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce qu'ils deviennent? S'ils sont au bout d'un certain temps sans avoir été réclamés, est-ce qu'il faut les éliminer? Plus personne n'en veut. Est-ce qu'il faut les donner à la recherche? Eh oui, mais c'est ça, hein, les questions. Est-ce qu'il faut les donner à la recherche sur l'embryon pour qu'ils puissent travailler dessus? Est-ce qu'il faut les donner à un couple stérile? Et à ce moment-là, on fait le don d'un embryon à un couple stérile? Tous ces cas de figure se posent. Donc c'est pour ça les chercheurs ont mis en place une technique qui s'appelle la vitrification des ovocytes, qui consiste à congeler, on va dire, à très basse température et de façon très brutale. C'est une technique particulière, l'ovocyte, et ça permet de n'en garder qu'un seul, de le conserver longtemps. Et donc, ces ovocytes, on peut les garder, ils ne sont pas fécondés. Ce n'est pas des embryons, c'est des cellules.
Oui.
Et on peut les utiliser, la femme elle-même pourra dire, bah, tiens, j'ai deux ovocytes qui m'attendent en congélation, d'ici 2 ans, je voudrais avoir un deuxième enfant, bah, je fais appel à un de mes ovocytes. Jusque-là, je dirais,
c'est acceptable.
Il n'y a pas de gros problèmes éthiques. Il y a des problèmes, ça pose des problèmes aussi de temporalité. On va dire, attendez, là, si c'est, vous refaites le même au bout de 10 ans...
vous allez dire...
on induit des perturbations énormes. Quoi.
Eh oui, eh oui.
Donc, on a mis au point cette technique qui résolvait le problème des embryons surnuméraires, qui résolvait... mais ça obligeait les laboratoires de PMA à modifier tout leur équipement, qui avait déjà coûté un bras ou deux. On s'est heurté, malgré... la réception de cette technique à l'Académie de médecine, on s'est heurté à une opposition majeure. Sachant que, bien souvent, les tenants des commissions qui décident là-dessus, d'éthique, sont souvent également membres des commissions de laboratoire, des laboratoires de on tourne en rond, quoi, je veux dire. Mais c'est le principe, c'est le même principe qu'on trouve dans le commerce, les intérêts sont tels que... Donc ça, c'est pour dire qu'on a du mal à faire peser nos choix, enfin, sur les autres. Nos choix ne concernent que nous, à la limite. Voilà.
Mais comme tu l'avais dit, hein, lors d'une synode, hein, c'est le presse de ce monde, il est derrière tous les systèmes qui sont mis en place.
Oui.
Même s'il est question de le contrecarrer, il trouvera toujours les possibilités de contourner des lois de continuer à prospérer. Hein.
Ouais.
Bon, nous le savons, comment les choses se passent, même si on n'a pas les moyens de pouvoir contrecarrer quoi que ce soit, mais on sait au moins dans quel univers nous vivons.
Voilà.
Tout ça, c'est l'égoïsme, l'esprit de revendication. Quand on n'a pas mis Dieu à sa place, c'est toujours comme ça.
Ouais.
On revient encore avec la prédication de ce matin, et même hier soir avec les jeunes. Ils étaient là par terre, pleurer. Parce qu'il leur a été expliqué que dans la vie, il faut bien que ce soit Dieu qui ait la première place.
Bien sûr.
Et que nous soyons subordonnés à Dieu et celui qui conduira les vies. Mais nous avons des théories qui poussent à gauche et à droite, où Dieu est détrôné, et on replace l'homme, l'humanisme central.
Oui.
Et c'est ça qui justifie ces genres de philosophies, des choses que nous voyons à l'heure actuelle. Oui. On déplace les bornes. Dieu a dit ne déplacez pas les bornes. Dieu, regarde. Chez Abraham, ils ont déplacé les bornes, on se retrouve avec quelqu'un qui porte la tête contre nous jusqu'à l'heure actuelle. Donc on voit très bien que si ce n'est pas naturel, tout ce qui est artificiel crée toujours des conséquences. Et nous en savons le prix. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure là. Oui. Oui, il était dans le déjeuner.
La GPA, ça y est, ça a été voté ou
non.
Ça
en France. Non.
Ça n'est où
alors oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai pas été clair. Le consultatif national d'éthique a refusé qu'on vote et qu'on légalise la pratique de la GPA en France.
Oui. Donc pour l'instant, c'est
comme toutes les décisions, les recommandations du comité d'éthique. Est-ce qu'il sera suivi? Est-ce que des lobbies ne feront pas pression?
Oui.
Au niveau de la GPA, je ne pense pas. Au niveau de l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, c'est différent. Je n'ai pas parlé d'un cas non plus. de GPA. Il y a des femmes qui refusent l'accouchement, qui refusent la grossesse pour ne pas, je dirais, endommager leur corps, leur look, leur, ne pas prendre de risques, garder une espèce de jeunesse. Et c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui fait ça pour vous, quoi. Voilà.
Le terme
en même temps, vous pouvez continuer à travailler, vous, à mener votre carrière. Et puis, voilà.
Vraiment.
Ça existe. C'est marginal, mais ça existe.
Non, mais ça existe. Dans les cas de figure, tout est possible. Mais que dire encore ? Mais merci d'être là pour avoir donné l'occasion
merci
à Joël.
Merci à vous.
En tout cas, grand merci d'être venu là. Je crois que les pasteurs ont encore l'occasion d'écouter tout ce que tu as en train d'expliquer, parce que c'est bien aussi qu'eux, ils ne soient pas des lignes auxquelles on est confronté avec nos paroissiens. Et on a besoin d'avoir des éléments de ce genre-là pour bien faire tourner la réflexion.
Oui.
Et avoir des réponses en conséquence.
Oui.
Voilà, je te remercie encore aujourd'hui, ainsi que Mireille. Et encore une fois de plus, Clément, ce matin, on est dans l'air du temps. Je crois que c'est le thème du moment et que Dieu soit béni. OK ?
Merci.
Voilà, on vous remercie d'être venu, que le Seigneur vous bénisse. Et bonne journée de travail pour les uns demain. Encore une fois de plus. Merci. Mmh.